Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre exceptionnelle avec une auteure qui vient d'un pays en guerre, un État qui, depuis février 2022, est la cible d'une invasion, d'agressions militaires où de nombreuses victimes sont déjà mortes sous les bombes ou dans les combats. Ce pays, c'est l'Ukraine. Bonjour Luba Yakimchuk.
Bonjour.
Comment dit-on bonjour en ukrainien ?
Добрий день, привіт, здравствуйте.
Добрий день, donc, et bienvenue en France, puisque vous êtes écrivaine, poète, et à l'occasion de votre recueil « Les abricots du Donbass », qui paraît aux éditions des Femmes, dans une traduction de Agathe Bonin et Irina Dmitrychine, que je salue puisqu'elle est à nos côtés et elle sera votre interprète. Vous êtes donc, Luba Yakimchuk, sur notre territoire pour présenter ce livre qui, je le précise, sera en librairie à partir du 15 juin. Mais est-ce que vous vivez toujours en Ukraine ?
J'habite à Kyiv, en effet.
Et comment ça se passe ?
Cette nuit, Kyiv a été la cible d'attaques de plusieurs drones et des immeubles ont été détruits. Il y a eu 17 attaques depuis le début du mois de mai et toutes les nuits, pratiquement, ces bombardements continuent et les Russes continuent à vouloir nous détruire.
Donc c'est une situation dangereuse, mais néanmoins, vous avez décidé de rester.
Les défenses antiaériennes sont extrêmement efficaces, mais à vrai dire, en effet, j'avais essayé de partir au mois d'avril de l'année dernière. Je suis partie pendant 3 mois. J'ai eu une bourse de travail à Vienne. Je suis partie avec mon fils et je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas bien et je ne veux pas rester loin de mon pays, loin de ma famille, loin de mon mari. C'est de la vie perdue et je ne veux pas perdre la vie à cause des Russes.
En tout cas, on est très heureux de vous rencontrer, Luba Yakimchuk, même si c'est effectivement pour parler de choses difficiles. Comme vous le disiez, vous vivez en Ukraine, mais vous ne vivez plus au Donbass, qui est votre région d'origine, comme en atteste ce recueil de poésie dont nous allons parler dans un instant. Mais d'abord, arrêtons-nous sur la préface que vous avez écrite précisément pour cette édition française, et où vous rappelez que cette guerre, elle a commencé en 2014 à Louhansk, qui est la partie la plus orientale du pays, près de la frontière russe, époque où il y a eu une première occupation dans le conflit entre séparatistes pro-russes et nationalistes ukrainiens. Vous étiez sur place à ce moment-là. Vous aviez à l'époque 26 ans, je crois. C'était donc déjà le début de la guerre.
Ma préface ne parle pas du tout de la confrontation entre les séparatistes pro-russes et les nationalistes ukrainiens. Elle parle de la guerre, de la manière dont elle a commencé. J'ai été à cette époque-là là-bas et j'ai vu comment la Russie est entrée. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de collaborateurs qui ont soutenu cette politique, tout comme il y a eu des collabos français au moment de l'invasion nazie. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne constitue pas de doute pour personne qu'il ne s'agit pas d'un conflit interne. Il s'agit d'une guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Et bon, c'est peut-être, ça a mis du temps pour devenir évident, mais aujourd'hui, c'est absolument clair pour tout le monde. Donc si vous voulez parler des nationalistes, effectivement, il y a des nationalistes aujourd'hui en Ukraine qui tuent la population ukrainienne. Et ce sont des nationalistes russes qui sont venus pour occuper et pour tuer. Je puis l'affirmer puisque je suis originaire de cette région de l'Est, du Donbass, et je l'ai vu de mes propres yeux. Mais je comprends tout à fait votre question puisque la Russie dépense énormément d'argent pour une propagande et pour présenter les choses d'une certaine manière, mais je pense que nous devons être suffisamment intelligents pour faire la différence entre la propagande, un certain discours et la réalité.
Sans entrer évidemment dans la politique, la géopolitique, je voulais juste contextualiser et constater avec vous, Luba Yakimchuk, que finalement, on a l'impression que cette guerre est bien le prolongement de ce qui s'est passé en 2014. Vous avez, vous aussi, l'impression d'être en guerre depuis 10 ans?
Так. Oui. А протягом 9 років.
9 ans, pour être précis.
Vous êtes à Kiev aujourd'hui. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe, des gens que vous avez connus aujourd'hui au Donbass?
En effet, ma maison et ma ville sont actuellement sous l'occupation. Ma maison est occupée par un combattant russe qui s'y est installé. Mes parents, qui vivent également maintenant donc loin de notre patrie, dans la Lorraine centrale, ils sont en contact avec leurs anciens voisins et donc nous sommes parfaitement au courant de ce qui s'y passe.
Alors si on s'attarde aussi, pour commencer, sur cette situation géopolitique, c'est parce que vous le rappelez très bien, Luba Yakimchuk, ça a un impact aussi sur l'écriture. C'est pas seulement sur la vie personnelle. Bien sûr, vous avez quitté votre région d'origine. Bien sûr, aujourd'hui, vous êtes à Kiev dans une situation tragique. Mais c'est aussi sur la vie quotidienne et sur l'écriture. La vie quotidienne, par exemple, vous dites « on perd totalement le contrôle ». Avec la guerre, vous l'écrivez. Mais comment est-ce qu'on fait pour retrouver le contrôle de soi alors?
C'est une
question intéressante et complexe. En effet, on perd le contrôle sur son existence et je pense que individuellement, nous perdons chacun le contrôle, nous ne maîtrisons pas vraiment notre vie. En revanche, collectivement, nous pouvons retrouver ce contrôle et cette maîtrise. Si on devait comparer avec la situation de fin février-mars, et aujourd'hui, je vois que aujourd'hui, je reprends ce contrôle et cela est possible grâce à l'armée ukrainienne et grâce à sa résistance. Savez-vous ce que font les Ukrainiens pendant les bombardements? Eh bien, ils donnent de l'argent à l'armée ukrainienne. Ils financent en fait les différentes fondations, par différents moyens, l'armement et l'armée ukrainienne pour lui permettre de nous défendre. D'autre part, les gens créatifs, les écrivains, nous avons un autre front qui est notre écriture, qui est le fait d'écrire et de décrire ce qui se passe. C'est aussi le fait de diffuser l'information par les interviews, par les textes, etc. Et c'est une façon que nous avons trouvée de maîtriser la situation et de la contrôler.
En effet, je me doutais bien que l'écriture était pour vous, Luba Yakimchuk, une façon de reprendre le contrôle. Et en même temps, est-ce que le conflit, la mort, la peur, l'insécurité ont ébranlé votre envie d'écrire? Parce que vous aviez aussi peut-être d'autres priorités vitales? Ou au contraire, ce contexte a renforcé votre écriture, votre poésie qui est devenue un outil de résistance?
Oui
et non, puisque j'avais d'autres moyens et d'autres outils pour résister. En effet, les premières semaines, je n'écrivais pas. Je m'occupais plutôt de l'aide logistique et j'aidais ma ville à résister. D'abord, c'était une manière donc de transporter la nourriture, par exemple le pain, pour le transmettre d'une partie de la ville à une autre, pour les hôpitaux, pour les orphelinats, etc.
Також потрібно було знаходити всі матеріали для приготування коктейлів Молотова для того, щоб захистити своє
місто. C'était l'objectif était de réunir tout ce qui est nécessaire pour fabriquer les cocktails Molotov, le combustible, les contenants et ce n'est qu'après que l'écriture est revenue et a commencé à avoir une place plus importante, mais donc ce n'était pas un outil exclusif de résistance.
On va parler dans un instant vraiment de ce recueil, Les abricots du Donbass, avec vous, Luba Yakimchuk. Pour l'instant, je vous propose une pause musicale. Est-ce qu'il y a un titre, un morceau, un interprète que vous aimeriez partager avec nous maintenant dans Littérature sans frontières sur RFI?
En effet, je voudrais entendre le groupe qui s'appelle Dach Daughters. C'est un groupe qui travaille aussi avec la littérature, avec les textes anciens, avec les textes modernes, mais aussi c'est une excellente musique. Et à ma connaissance, les Français connaissent ce groupe. Ils ont eu des concerts qui ont eu beaucoup de succès à Paris, donc je serais ravie que nous puissions les entendre.
Alors, on l'écoute tout de suite.
Татьяна, лежу на ложі і руками перебираю свої перла. Не мислю дня без насолоди, а моє тіло воно ніби кішка.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec la présence exceptionnelle aujourd'hui de l'écrivaine Luba Yakimchuk de passage à Paris à l'occasion de la publication en version bilingue ukrainien-français de son recueil de poésie « Les abricots du Donbass » traduit par Agathe Bonin et Irina Dmitrichine, également avec nous, un livre qui paraît aux éditions des Femmes. Donc, « Les abricots du Donbass », titre du recueil et titre éponyme du premier poème qui tient en une phrase. Je vous cite « Là où cessent de pousser les abricotiers, commence la Russie. » Fermez les guillemets. C'est une métaphore ou c'est une réalité ?
C'est la réalité. Et maintenant,
oui et non, c'est une métaphore et une réalité, puisqu'il y a les abricots sauvages, donc les abricotiers dans ces régions ukrainiennes, et aujourd'hui dans ces régions de l'Est, de Luhansk, Donetsk, qui sont occupées. Ces arbres sont brûlés par les combats, par le feu, mais ils sont toujours là, et ce sont ces arbres-là qui délimitent la frontière de l'Ukraine en absence de frontières administratives, parce que ces territoires sont occupés.
Dans
ma petite ville, là où j'ai grandi, les trains qui allaient de Kiev à Moscou passaient et une des occupations était de vendre les abricots pour ces trains qui amenaient ces fruits en Russie. Et donc, effectivement, il s'agit d'une réalité, une délimitation en quelque sorte entre les deux pays. Là où ne poussent pas les abricots, c'est la Russie.
C'est un recueil qui est organisé en quatre parties, intitulé « Les abricots du Donbass »,« Décomposition »,« Vers non libre » et « Deux ont dit qu'ils sont nus ». À quoi correspondent de ces différentes sections ? Est-ce que c'était des temps d'écriture ou est-ce que ce sont des thématiques pour vous ?
Окрім того, що я поетка, я ще драматург.
Je suis poétesse, mais je suis également dramaturge, scénariste, et je suis attachée à la poétique d'Aristote.
І в моїх віршах так само в цих.
Donc, lorsque je compose un recueil, bien sûr, certaines parties peuvent correspondre au temps d'écriture à une certaine époque, mais c'est surtout une dramaturgie, c'est surtout une forme de présentation. Il me faut que l'histoire soit en progression, qu'elle se développe, et je tiens toujours à terminer par quelque chose qui, s'il ne soit pas positif, au moins soit porteur d'espoir. Donc je ne veux pas de fin tragique.
Et en effet, on commence dans la mine et on finit par l'espoir peut-être d'un ailleurs, si je résume brièvement.
On peut le dire comme ça.
Alors, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous faire un cadeau, Luba Yakimchuk, nous lire un de ces poèmes à la fois dans votre langue et si vous voulez bien, en alternance, je donnerai la traduction française. Vous choisissez quel poème ?
Від старості.
De vieillesse.
De vieillesse. Très bien, on vous écoute.
Від старості. Померли дід і баба. В один день померли. В одну годину, в одну хвилину. Люди говорили, що від старості.
Grand-père et grand-mère sont morts le même jour, la même heure, la même minute. On a dit que c'était de vieillesse.
Здохла їхня курка, їхня коза та собака, а кішки не було вдома, І люди говорили, що від старості.
Et crevaient leurs coqs, leurs chèvres et chiens. Le chaton n'était pas à la maison. Et on a dit que c'était de vieillesse.
Розвалилась їхня хата, сарай став руїною, і погріб зверху присипало землею. Люди говорили, що від старості розвалились.
S'est écroulée leur maison, la grange s'est muée en ruine et la cave a été recouverte de terre. On a dit que c'était de vieillesse s'il s'était écroulé.
Прийшли їхні діти ховати діда з бабою. Оля була вагітна, Сергій був п'яний, а Соня мала 3 рочки. І вони теж померли, а люди говорили, що від старості.
Leurs enfants sont venus enterrer le grand-père et la grand-mère. Olia était enceinte. Seri était ivre. Sonia, elle, avait 3 petites années. Et eux aussi, ils sont morts. Et on a dit que c'était de vieillesse.
Холодний вітер обірвав жовте листя і поховав під ним діда, бабу, Олю, Сергія, Соню, які померли від старості.
Le vent froid fend les feuilles jaunes et on a recouvert grand-père, grand-mère, Olia, Seri, Sonia, mort de vieillesse. Merci beaucoup.
Цей вірш якраз про те, про що ми говорили на початку, про те, що пропаганда розказує, що війни немає.
Ce poème rejoint ce que nous avons dit au début. La propagande dit qu'il n'y a pas de guerre, or les gens meurent à tout âge, et donc ça correspond à le décalage entre la réalité et ce qu'on dit, ce qu'on prétend.
Ce qui est très beau dans ce poème, qui suscite beaucoup d'émotions, c'est à la fois cette mort, cette violence que vous affrontez, et toute l'ironie que vous mettez dans évidemment la critique de ce discours où les gens sont morts de vieillesse, comme si une enfant de 3 ans pouvait mourir de vieillesse. Est-ce que ce style qui est très particulier, c'est le vôtre depuis toujours, ou ça a été aussi renforcé par ce contexte d'immense tragédie?
Знову ж таки, не можна так прям просто відповісти на це запитання.
Justement, l'illustration du fait que la guerre est terrible, mais il n'y a pas que le tragique qui peut décrire la guerre. Pour la décrire, on peut utiliser le registre comique, l'ironie, le sarcasme. Et justement, c'est l'utilisation de ces autres procédés littéraires et qui permettent le mieux appréhender et décrire la guerre, mais aussi permettent de résister. Si nous n'étions pas capables de rire de ce qui se passe, nous ne pouvions pas survivre.
Mais est-ce que vous avez toujours été ironique comme ça, sarcastique?
Напевно, це приходить з віком. Я раніше була дуже...
Probablement, ce qui vient avec l'âge. Plus jeune, j'étais plus lyrique, plus romantique. Il m'est difficile de dire ce qui est attribuable à la guerre et ce qui fait partie de moi, de la maturité, de la croissance, etc. Donc, voilà, c'est là.
Dans ce recueil, il y a aussi un poème tout à fait particulier puisque c'est un reçu de caisse. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi ce reçu?
Так, звичайно. До цієї перед цією поемою є інший вірш.
Ce poème est précédé d'un autre poème qui s'appelle Décomposition et je montre comment la réalité se décompose, se fragmente où les mots sont déchiquetés en syllabes et ces syllabes qui restent sont également porteuses de sens mais c'est aussi ce qui est imputé, ce qui reste et donc après avoir composé ce poème, je suis allée dans un supermarché, c'est un véritable reçu un véritable chèque de caisse et ce supermarché a la particularité en Ukraine d'écrire des prévisions ou des extraits de poèmes sur le ticket de caisse et donc le ticket de caisse que j'ai eu dans ce contexte avait un mot qui n'était pas écrit en totalité et Loub, eh bien ce sont les 3 premières lettres de mon prénom qui veut dire amour et donc cet amour qui était imputé, qui était déchiqueté et ça faisait écho avec ce poème précédent où je disais que je ne suis plus Luba, mais seulement Ba. Et là, le cheikh m'a invité à rester quand même Loub, à reprendre en quelque sorte cette intégrité. Et ça m'a fait penser à la poésie de Fé. C'était un courant de la poésie futuriste ukrainienne sur laquelle j'ai travaillé. Et j'ai trouvé que c'était un signe, donc la raison pour laquelle j'avais gardé ce ticket de caisse. Et j'ai pu le présenter comme poème, alors que c'est une véritable pièce.
Cette question donc de la langue que vous abordez déjà dans la préface, où vous racontez une anecdote extraordinaire, c'est comment la réalité militaire entraîne le changement de sens des mots. Par exemple, électricité. D'une chose normale, c'est devenu une chose dangereuse, puis une chose précieuse. Donc, d'une certaine façon, la langue et la langue poétique épousent une situation géopolitique en mouvement. La langue accompagne une guerre et change sous l'effet d'une guerre.
La langue accompagne toujours la réalité. C'est une caisse de résonance, elle répond, donc elle est très sensible à la réalité. Aujourd'hui, la réalité change avec une vitesse beaucoup plus rapide en Ukraine. En 2014, lorsque la guerre a commencé dans l'est du pays, seuls les habitants de l'Ukraine orientale en étaient conscients. Aujourd'hui, cette réalité, elle est arrivée à l'ensemble du pays et tout le monde constate l'impact, en quelque sorte, de la guerre sur la langue et la manière qu'elle a à désigner les choses et les phénomènes.
Mais est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de dire en quoi votre poésie a changé avec ce changement de langue ?
Ma poésie suit la réalité et lorsque je ne peux plus nommer les choses parce qu'elles changent trop souvent de sens, eh bien je trouve d'autres procédés pour rendre compte de ce changement et de cette évolution. Et donc c'est une fragmentation, une destruction que je représente dans ma poésie par d'autres procédés.
Est-ce que d'autres moyens, c'est aussi, par exemple, il y a beaucoup d'animaux qui sont cités ici. Il y a beaucoup de choses aussi du quotidien, des gestes. Est-ce que c'est comme ça que votre poésie aussi contourne d'une certaine façon une réalité en utilisant d'autres mots ?
Я думаю, це мої інтереси.
Je pense que ça correspond davantage à ce que je suis. J'ai toujours été passionnée par la biologie. D'ailleurs, j'hésitais à un moment donné de travailler avec la littérature ou plutôt choisir un autre métier lié à la nature. J'ai toujours eu beaucoup d'animaux. J'ai actuellement 3 chats et un chien. J'ai beaucoup de plantes. Donc, je suis entourée de ce monde vivant. Et donc, ça correspond à ce que je suis. Et je pense que leur présence dans la poésie, c'est plutôt le reflet de cette passion plus qu'une manière de transformer ou de dépasser la réalité. Vous remarquez ou faites attention à des choses extrêmement subtiles et ça me fait très plaisir que vous les pointiez. Je travaille actuellement sur une œuvre qui parlera encore davantage de la nature et du vivant et donc je suis véritablement touchée de voir que vous l'avez remarqué.
Parlons de quelque chose maintenant qui vous tient à cœur et que vous évoquez dans ce livre, c'est le projet culturel Kibinsti, qui, à l'image d'un poème, je crois, de Mikhail Semenko, imagine qu'un jour, il y aura un métro entre Paris et cette ville, Kibinsti. Et vous aussi, vous avez un lien avec la France, Luba Yakimchuk, comme on le constate avec ce dernier poème qui clôt le recueil et qui s'intitule « La mine de la langue française ». Mais quel est ce lien exactement que vous avez avec la France ?
Ce lien est double. D'une part, je base ma poésie sur la tradition littéraire et poétique française, européenne, mais française et ukrainienne, bien sûr. Et d'autre part, donc, j'apprenais le français à l'école. Et donc, un des procédés, une des façons à apprendre à prononcer le R français, qui n'est pas du tout propre à la langue française, était de prendre le mot charta. Et donc, essayer de grasseiller, de retrouver le son avec le « ch » et « schacht » et tout simplement veut dire la mine.
Et vous citiez Henri Michaud aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que représente Henri Michaud pour vous quand vous dites que vous, vous écrivez aussi selon la poésie française?
Le lien est tout simple, c'est tout simplement mon poète préféré et je lui ai dédié donc un des poèmes de ce recueil et je trouve qu'il y a un lien entre la poésie érotique de Michaud et ce poème.
Alors ce n'est que justice qu'on vous accueille aussi à notre tour en langue française et qu'on puisse lire ce recueil. Vous allez rentrer à Kiev après votre tournée française?
Tac, tac. Oui.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici, en France, pour vous aider là-bas, en Ukraine?
En réalité, vous faites déjà beaucoup de choses et je ne parle pas que de cette interview qui permet d'expliquer certaines choses. C'est tout d'abord le soutien militaire que la France octroie à l'Ukraine, les armements, les entraînements, etc. Donc, si la ville de Kyiv n'est pas occupée, si le territoire de l'Ukraine, la majeure partie n'est pas occupée, c'est aussi grâce à ce soutien militaire français et je tiens à vous remercier, vous, pour cette émission, pour cet enregistrement, mais aussi le gouvernement français pour toute cette aide qui est apportée à l'Ukraine, parce que c'est justement grâce à cette aide que je suis aujourd'hui en vie. Le pire de ce qui se passe pendant la guerre, ce n'est pas les bombardements, ce n'est pas des missiles, c'est l'occupation. Parce que c'est sous l'occupation que les pires choses arrivent. Les Russes, comme le montre l'expérience récente, s'attaquent aux écrivains, tuent les enseignants, la culture, etc. Et donc, les pires choses arrivent sous cette occupation. Et si nous sommes toujours en vie et nous nous battons, c'est parce que nous sommes puissamment soutenus. Et je vous suis reconnaissante aussi bien pour cette interview que pour l'aide militaire que apporte votre pays.
C'est nous qui vous sommes reconnaissants et reconnaissantes d'avoir écrit aussi ce recueil de poésie, qu'on est heureux et heureuse de lire et on va continuer de vous lire et de faire partager ce recueil autour de nous. Un livre dont je rappelle le titre, Les abricots du Donbass, qui a été publié aux éditions des Femmes et qui sera en librairie le 15 juin prochain. Je rappelle des poèmes qui sont traduits de l'ukrainien par Agathe Bonin et Irina Dmitrychine, que je remercie aussi infiniment, qui a été votre voix française tout au long de cet entretien et qui a permis de traduire voilà, ces pensées fortes, ces mots forts que vous avez aussi apportés avec vous en France. Merci beaucoup, Luba Yakimchuk.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.